Bonjour chers auditeurs, vous écoutez l'émission La Bible en question. Au micro, Catherine Mann et Anne-Marie Arbitre. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Catherine, bonjour à tous, ravie d'être avec vous.
Voilà, nous débutons donc une nouvelle année radiophonique et en même temps un nouveau sujet de réflexion. Nous allons nous intéresser cette année au prophète Jérémie. Nous avons en effet étudié ce prophète avec le père Jesús Azurmendi, un grand spécialiste du prophétisme qui est venu enseigné l'année dernière à Chartres. Nous allons donc partager avec vous toutes les questions que cette étude a soulevées et bien sûr essayer d'y répondre en nous plongeant à fond dans ce qu'on appelle la vie et l'œuvre du prophète Jérémie. Et la première réflexion qui nous est venue est que pour bien comprendre le texte biblique qui nous est parvenu, il faut d'abord être capable de resituer l'homme Jérémie dans son contexte historique. Parce que son action prophétique, bien qu'elle ait un but religieux, est aussi profondément impliquée dans des relations politiques et sociales très complexes. Cela nous oblige à nous rappeler d'emblée que le Dieu de la Bible n'est pas une abstraction intellectuelle, mais bien un Dieu vivant qui s'engage dans une relation concrète avec l'humanité. Relation qui n'est pas vraiment simple, car elle demande que les humains à leur tour s'engagent envers Dieu avec fidélité et responsabilité, puisqu'il s'agit d'une alliance, donc d'un contrat réciproque. Mais les humains sont d'une nature assez versatile et superficielle, et très vite oublieux de la présence de Dieu dans leur vie.
Oui, c'est même cette tendance à l'infidélité qui est à l'origine de la fonction prophétique. Car en fait, un prophète c'est quoi ? C'est un homme choisi par Dieu, comme messager de sa parole. C'est un peu un commissionnaire, mais porteur bien souvent de sévères rappels à l'ordre ou de critiques acerbes, voire quelques menaces de représailles. Mais aussi, quand même, parfois des messages d'encouragement et d'espérance. Le prophète est le moyen choisi par Dieu pour donner de ses nouvelles aux humains, pour se rappeler à leurs bons souvenirs, à leur remettre en mémoire un petit peu le lien fondamental qui les unit à Dieu et qui doit être respecté pour ne pas mettre en danger l'existence même de l'humanité. Alors ici, dans le cas précis de Jérémie, Dieu va le choisir pour intervenir dans l'histoire d'Israël, à une époque vraiment tumultueuse, pleine de violence, dans un contexte de dérive religieuse, d'inégalité sociale, de problèmes économiques, politiques, politiques à cause de l'incompétence des dirigeants et de la corruption. Alors, mais est-ce qu'en entendant toute cette énumération de problèmes, on ne peut pas se retrouver dans une étrange ressemblance avec le monde d'aujourd'hui? En fait, il semble bien que c'est un peu un éternel retour des mêmes difficultés humaines. Et voilà, donc une bonne raison de nous intéresser au prophète Jérémie, car il pourra peut-être nous aider à réfléchir aux problèmes de notre époque, quand même.
Ben oui, c'est sûr que même si les circonstances historiques sont très différentes, certaines choses ne changent pas, pour ne pas dire ne changent jamais. En tout cas, il y a toujours le même mauvais penchant des cœurs qui sont attirés par le goût du pouvoir, la richesse, rechercher la vie facile et les divertissements en tout genre, tout ce qui tend à détourner des qualités morales que l'alliance avec Dieu impliquerait. L'humanité arrive à se développer extérieurement, ça, faut reconnaître. Techniquement, ça marche bien. Mais la maturité intérieure a du mal à suivre, semble-t-il. C'est sans doute là qu'on sent que pèse le poids de ce qu'on appelle le péché originel. Cette pesanteur du mal, en tout cas, le prophète Jérémie l'a particulièrement constaté. Et il en a souffert, et beaucoup souffert. Il est d'ailleurs resté célèbre dans l'histoire à cause de cela, Si on se souvient de lui, c'est essentiellement à cause des Jérémiades. Hein, cette méchante formule qui caricature les plaintes et les lamentations du prophète, en fait, pour les ridiculiser. Et ça déforme généralement le souvenir de ce prophète en le présentant comme un dépressif un peu pleurnichard, alors que c'était un homme avant tout tourmenté par tout le mal qu'il voyait autour de lui et par les souffrances et les malheurs qu'il prévoyait pour tout le peuple juif à cause de leur aveuglement. Son devoir de prophète l'obligeait à dévoiler les fautes, à les critiquer et à avertir des conséquences, mais on sait à quel point ça dérange et combien les oiseaux de mauvais augure sont en général détestés, même s'ils ont raison, et même surtout s'ils ont raison.
Ah oui, ça c'est sûr, le métier de prophète est difficile. Alors, il faut aller secouer les consciences, affronter un peu les résistances, parfois violentes, hein. Supporter beaucoup de moqueries, d'indifférence. Ça suppose quand même un caractère bien trempé, hein, capable d'accepter l'isolement, le mépris, les persécutions. Et Jérémie a subi tout cela, hein, et même parfois a frôlé le désespoir, nous verrons. Alors, mais commençons d'abord par essayer de comprendre le contexte, hein, dans lequel il va devoir intervenir. Donc nous sommes là au 7e siècle, hein, avant Jésus-Christ, puisqu'on pense que Jérémie est né vers 645, hein, avant Jésus-Christ. Donc c'est l'époque de la royauté en Israël et Juda. Rappelons que seul David, hein, puis après son fils Salomon, ont régné sur la totalité des 12 tribus, mais qu'ensuite il y a eu un schisme, donc, et que 10 tribus s'unirent pour former Israël, donc le royaume du Nord, et 2 tribus s'unirent pour former Juda, le royaume du Sud, hein, autour de Jérusalem. Mais à la naissance de Jérémie, le royaume du Nord a disparu depuis environ 70 ans. Il a été envahi, détruit par les Assyriens, et une grande partie de la population a été déportée. On a installé à sa place des colons assyriens, hein, ceux-là même qui, donc mêlés un petit peu aux Israélites qui continuent à habiter dans le pays, vont adopter partiellement leur religion. Hein, ils deviendront ce qu'on a appelé les Samaritains. Donc Jérémie ne connaîtra que les rois de Juda, hein, ceux du royaume du Sud, issus de la lignée légitime du roi de David, mais qui pour autant ne seront pas tous des bons rois.
Eh ben non. Il est dans le Sud parce qu'il est né là, donc à Anatot. C'est un tout petit village au nord-est de Jérusalem, à 6 km de Jérusalem, dans une famille de prêtres de la tribu de Benjamin. Tribu qui est en fait restée assez liée avec le nord du pays. C'est pourquoi Jérémie s'intéressera à tout ce qui va advenir à l'Israël du Nord, bien que l'essentiel de son ministère l'enverra ensuite vers les rois de Juda et le peuple de Judée. Mais nous l'avons compris, le contexte politique environnant est problématique. L'empire assyrien a réussi à s'étendre en fait jusqu'à l'Égypte. Et le petit royaume de Juda ne peut subsister qu'en devenant le vassal des Assyriens. Vers 630 avant Jésus-Christ, pourtant, l'empire assyrien commence à donner des signes de déclin. Et il perd le contrôle de tout un secteur, la Babylonie. Or, à ce moment-là, règne en Juda le jeune roi Josias, assez célèbre parce qu'il va entreprendre des réformes religieuses et sociales. Un grand redressement moral du pays, avec sans doute aussi comme projet d'échapper à l'emprise assyrienne et de retrouver une indépendance politique. Et il semble qu'il rêve également de restaurer la nation entière en remontant aussi vers le nord. Et c'est à ce moment-là que Jérémie, qui a atteint l'âge d'environ 20 ans, reçoit l'appel de Dieu. Et même s'il ne participe pas directement aux réformes du jeune roi Josias, il les connaît et va les soutenir par ses premières prédications, qui vont d'abord s'adresser à ce qui reste de l'Israël du Nord devenu assyrien, pour les aider à se convertir et espérer un avenir meilleur en lien avec Juda et Jérusalem.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous parlons du prophète Jérémie. En le situant autant que possible dans les événements de son temps, dans tous les problèmes politiques, sociaux et religieux dans lesquels le prophète va devoir intervenir. Nous étions arrivés à parler de Josias, roi de Juda, puisque c'est pendant son règne que Jérémie commence son ministère prophétique. Ce fut donc un bon roi, plein d'idéal, qui voulut entreprendre de grandes réformes pour renouer avec la tradition et restaurer l'alliance avec le Dieu d'Israël. Malheureusement, tout le renouveau religieux et toute l'espérance que le roi Josias a suscité seront sans résultat. En tout cas, sans résultat bien longtemps, puisqu'il se fera tuer lors d'un combat contre le pharaon Nécao, qui se révoltait, lui, contre l'occupation assyrienne. Il est intéressant de lire le récit de la fin du roi Josias dans le deuxième livre des Chroniques dans la Bible, donc chapitre 35, versets 20 à 26, pour comprendre comment les rédacteurs de la Bible vont interpréter cet échec du roi Josias. Je vous lis. « Après tous ces événements, lorsque Josias eut réparé la maison du Seigneur, Nécao, roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchémish, sur l'Euphrate, et Josias marcha à sa rencontre. Nécao lui envoya des messagers pour lui dire, « Que me veux-tu, roi de Juda ? Ce n'est pas contre toi que je marche aujourd'hui, mais contre une autre maison royale avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Laisse donc agir Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. »
Ce récit nous explique donc que Josias se mêle d'un combat qui ne le concerne pas. Et on a effectivement du mal à comprendre le but de son intervention, puisque les Égyptiens venaient combattre leur envahisseur commun, l'Assyrie. Ce qui est intéressant, c'est que le texte nous montre que Dieu a pris le parti dans ce combat, puisque le pharaon se dit mandaté par Dieu. Alors on pourrait dire, bien sûr, que ce n'est pas le même Dieu que pour Israël. Mais la suite du livre des Chroniques ne nous dit pas cela. Donc on est toujours dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 35, mais là, versets 22-25, je vous les lis. « Mais Josias ne changea pas d'avis. Bien plus, il se déguisa pour l'attaquer. Il n'écouta pas les paroles de Nécao qui venaient de la bouche de Dieu. Il vint livrer bataille dans la plaine de Megiddo. Les archers tirèrent sur le roi Josias, qui dit à ses serviteurs, « Emportez-moi, car je suis gravement blessé. » Ses serviteurs le sortirent de son char, le placèrent sur un autre de ses chars et l'emmenèrent à Jérusalem, où il mourut. On l'ensevelit dans les tombeaux de ses pères. Tout Juda et Jérusalem prirent le deuil de Josias, et Jérémie composa une lamentation sur Josias. Voilà, donc le rédacteur des Chroniques ne dit donc rien d'autre que Josias n'écouta pas les paroles de Nécao qui venaient de la bouche de Dieu. Là, il n'est pas du tout question d'un Dieu différent. Le texte laisse seulement transparaître le Dieu unique.
Oui, voilà, c'est une des particularités d'ailleurs de ce que nous allons rencontrer tout au long de notre lecture du prophète Jérémie. Le Dieu d'Israël et de Juda va guider d'autres nations en fonction des résultats historiques qu'il veut obtenir. Alors je pense que nous avons beaucoup de mal aujourd'hui à imaginer que notre Dieu pourrait s'immiscer dans les conflits ou dans les guerres pour les mener là où il veut. Pourtant, nous devrons réfléchir à ces questions, me semble-t-il. Si l'on croit, comme les Hébreux, que Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe dans l'histoire des hommes, comment devons-nous imaginer qu'il réagit ? Il laisse faire ? Il laisse les humains se dépatouiller entre eux avec leurs contradictions et leurs conflits ? Ou au contraire, il vient s'en mêler ? Mais si oui, comment ? Le récit que nous venons de lire à propos de Josias montre, en tout cas, qu'un très bon roi, fidèle à l'Alliance, qui s'investit pour redresser l'Alliance et sa nation, n'est pas pour autant infaillible et qu'il peut faire d'énormes erreurs de stratégie parce qu'il n'entend pas correctement la volonté de Dieu. Le texte nous a dit que Jérémie composa une lamentation sur Josias, comme vous avez entendu. Quelle fut exactement cette lamentation de Jérémie ? Est-ce qu'il a dit de lui, comme il a dit des autres rois ? Je vous cite un passage du livre de Jérémie, chapitre 22, verset 9, où il dit « Des rois, ils ont abandonné l'alliance du Seigneur leur Dieu pour se prosterner devant d'autres dieux et les servir. C'est pourquoi sa maison ne sera plus qu'une ruine. » Mais je trouverais très injuste qu'ils disent cela de Josias après tous les efforts qu'il a faits.
Oui, pourtant, même si la bataille de Megiddo fut la seule erreur du roi Josias, là, elle lui fut fatale. Dieu était donc du côté de son adversaire égyptien, c'est la morale de l'événement. En tout cas, quand il est relu et commenté a posteriori par le rédacteur biblique. Comment comprendre que Dieu n'a pas épargné ce roi, si plein de bonne volonté par ailleurs ? Alors, la seule explication serait, semble-t-il, que nous sommes responsables de nos erreurs, et que nous devons subir les conséquences en face de la justice divine, même si sa miséricorde accorde le pardon dans l'au-delà. Josias aurait dû arriver à voir le Dieu unique comme celui de toute l'humanité, et pas seulement celui du peuple hébreu, et admettre qu'ici, le pharaon exprimait bien la volonté du Dieu unique. Il l'avait prévenu du risque absurde qu'il prenait en l'attaquant. En tout cas, celui qui en a tiré une leçon, c'est Jérémie. Car il va devoir souvent s'opposer au roi de Juda ensuite pour leur indiquer des solutions politiques. Mais qu'ils vont généralement refuser avec orgueil, n'admettant pas que d'autres nations leur soient imposées par Dieu. Et pourtant, tout ce que leur annoncera Jérémie va se réaliser. Mais ne critiquons pas trop vite ces rois, car il n'est pas facile de reconnaître un vrai prophète, celui qui réellement annonce la parole de Dieu. C'est facile, après coup, de dire, vous voyez bien, il avait raison. Mais avant, quand il faut choisir vraiment entre plusieurs avis différents, comment discerner les vrais des faux prophètes ?
Ben voilà, et c'est un problème qui est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Est-ce que nous sommes capables d'entendre les voix authentiquement prophétiques ? Dans notre monde chaotique. Je pense que même le pape François a des contradicteurs qui veulent s'opposer à ses messages. Et pour ce qui est de toutes nos petites décisions à prendre au jour le jour, à qui faisons-nous confiance pour prendre conseil ? Il y a tellement d'opinions différentes et contradictoires qui circulent. Qui a raison ? Qui a les paroles de vérité ? Si c'était si facile à discerner, je pense que nous n'aurions pas autant de problèmes politiques, nationaux et internationaux. Il n'y a qu'à voir comment, au sein d'une même religion, et j'ose prendre l'exemple de l'islam contemporain, il existe des points de vue radicalement opposés dont chacun croit que le sien est le seul vrai, qu'il possède la seule vraie volonté de Dieu. Mais on pourrait en trouver des exemples dans toutes les religions, car en fait, l'unanimité n'existe nulle part. Donc soyons modestes, en comprenant que le livre du prophète Jérémie raconte en même temps ce qui a été annoncé et ce qui s'est effectivement réalisé, donc c'est écrit après, et que les méthodes de discernement, eh ben, on ne nous en dit rien. Ça restera notre problème à régler dans la prière avec l'aide de Dieu et des évangiles, surtout pour nous, dans nos sociétés démocratiques, où chacun a sa part de responsabilité politique. Il faut espérer que tous y prennent au sérieux la difficulté de faire le bon choix, ou un bon choix, avec discernement et réflexion, pour éviter de nous retrouver, nous aussi, un jour, soumis à un quelconque tyran dans un système totalitaire, comme cela va arriver pour le peuple de Juda.
En effet, après donc la mort du roi Josias, tout va un peu mal tourner. Un de ses fils, Joachas, va devenir roi à son tour. Mais, je vous cite dans le livre des rois, « Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. » Donc en conséquence, au bout de 3 mois seulement, le pharaon le fait prisonnier, le remplace par un autre fils de Josias, qui fut donc un peu plus inféodé. Le deuxième fils de Josias s'appelle donc Joachim. Dès lors, nous dit le deuxième livre des rois, je vous lis donc au chapitre 23, le verset 35, « L'argent et l'or... Joachim les livra au pharaon pour fournir la somme exigée par le pharaon et taxa le pays. Il exigea des gens du pays un impôt d'or et d'argent, chacun selon sa fortune, pour le donner au pharaon Necho. » Donc ce roi n'était pas non plus selon le désir de Dieu. Donc on peut lire aussi toujours au deuxième livre des rois, chapitre 24, verset 2. Le Seigneur envoya contre Joachim des bandes de Chaldéens et des bandes venant d'Aram, de Moab et d'Ammon. Il les envoya contre Juda pour l'anéantir, conformément à la parole que le Seigneur avait prononcée par l'intermédiaire de ses serviteurs, les prophètes. Cela se produisit en Juda, uniquement par ordre du Seigneur qui voulait l'écarter loin de sa face. Donc, tous les malheurs qui vont s'abattre sur le peuple de Juda semblent voulus par Dieu, hein, prévus et annoncés par les prophètes comme résultat de mauvais comportements des rois. Alors, tout cela se passe entre à peu près -608, -598 avant Jésus-Christ. Et Jérémie doit avoir à ce moment-là une soixantaine d'années. Et pendant ce temps-là, la face du monde politique est en train de changer, car l'Assyrie périclite, elle est vaincue par l'Empire babylonien, qui est lui en plein essor. Et Jérémie accompagne un petit peu tous ces événements en essayant d'y ramener la parole de Dieu.
Vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, 106.8 à Chartres.
Vous écoutez Radio Grand Ciel, l'émission La Bible en question, et nous sommes en train de faire le point sur le contexte historique durant lequel le prophète Jérémie exerce son ministère. Donc la domination assyrienne vient de prendre fin pour être remplacée par l'hégémonie de Babylone qui devient le nouvel envahisseur de Juda. Et à la mort du roi Joachim, donc du sud de Juda, son fils Jéconias lui succède, aussi mauvais roi que lui. Puisque le livre des rois nous dit aussi, il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur et ajoute, tout comme avait fait son père. Et je vous lis la suite, donc 2 Élu des rois, chapitre 24, versets 10 à 14. En ce temps-là, les troupes de Nabucodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville alors que son armée l'assiégeait. Alors, Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses officiers et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone qui les fit prisonniers. C'était en la 8e année du règne de Nabucodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors de la maison du Seigneur avec ceux de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait faire pour le temple, et tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Et Nabucodonosor déporta tout Jérusalem. Donc après cette victoire babylonienne et une première déportation, parce que quand on dit tout Jérusalem, ce n'est pas tout à fait vrai.
Oui.
Donc il met en place un autre roi qui lui est soumis, le roi Sédécias. Celui-ci régna pendant 11 ans. Et donc, comme dit à nouveau le verset 19, il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Et j'ajoute, donc 2 Chroniques, chapitre 36, verset 12, il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur son Dieu et ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie qui parlait au nom du Seigneur.
Voilà, mais au bout des 8 années de cette soumission, Sédécias, contre l'avis du prophète Jérémie, va tenter de se révolter contre Babylone. Mais Nabucodonosor revient alors attaquer Jérusalem avec toute son armée pour écraser cette révolte. Et comme on peut le lire dans le deuxième livre des Rois, chapitre 25, versets 1 et 2, il établit son camp devant la ville qu'il entoura d'un ouvrage fortifié. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du règne de Sédécias. Donc après ce siège de plusieurs années, hein, la ville est affamée bien sûr, mais au lieu de se rendre, le roi de Juda et son armée vont tenter de s'enfuir. Et bien évidemment, hein, cela finit mal. Donc ils sont rattrapés, les fils du roi sont égorgés, le roi, lui, eut les yeux crevés avant d'être emmené, enchaîné jusqu'à Babylone. Donc nous sommes alors donc en -587 avant Jésus-Christ. Hein, et cette date reste à jamais gravée dans les mémoires, car tout Jérusalem, ainsi que la maison du roi et le temple, vont être incendiés. Toutes les richesses de la ville vont être pillées, et presque tout le reste du peuple de Juda va être déporté à Babylone. Alors le texte du deuxième livre des rois, chapitre 25, 12, nous dit, verset 12 nous dit, « Il laissa seulement une partie du petit peuple de la campagne pour avoir des vignerons et des laboureurs. » Alors on établit sur donc Juda un gouverneur, collaborateur des Babyloniens, un certain Godolias. Mais il se trouve encore dans le peuple des hommes.
Il y en a toujours. Il y a toujours des petits restes.
Quand même. On a toujours un peu d'espoir. Donc, des hommes qui veulent se révolter. Hein, et donc, ils vont assassiner Godolias. Et voici ce que dit, donc, toujours dans le deuxième livre des rois, chapitre 25, là, maintenant, le verset 26. Alors, tous les gens, du plus petit jusqu'au plus grand, et les officiers des troupes se levèrent et se rendirent en Égypte, car ils avaient peur des Chaldéens. c'est-à-dire des Babyloniens, bien sûr.
Oui, Chaldée, Babylone, c'est le même secteur. Donc, une fuite, encore une révolte tuée dans l'œuf, mais une fuite en Égypte de tout ce qui reste de la population. Ça vide encore plus le pays de ce qui restait de Juda. Mais ce qui est plus terrible encore, c'est qu'ils fuient et vont emmener prisonnier avec eux le prophète Jérémie. Alors ça, c'est le comble. Lui qui avait, Jérémie, essayé de convaincre les Judéens de se soumettre à Babylone parce que telle était la volonté de Dieu, alors qu'il recherchait une illusoire protection en Égypte, eh bien le voilà entraîné contre son gré en Égypte à la fin de sa vie. Et là, ben, on perd sa trace. Et nul ne sait comment il va mourir ou disparaître. Une vie terrible d'ironie, enfin une fin absurde pour lui qui a déjà tellement souffert tout au long de sa vie. On comprend mieux les réticences dont il a fait preuve au moment où Dieu l'a appelé. Il fait partie de ces prophètes qui ont tendance à partir en marche arrière, mais nous verrons tout cela en détail à partir de la prochaine émission. Pour le moment, essayons de résumer tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le contexte politique qu'il a connu tout au long de sa vie. Donc Jérémie est né près de Jérusalem pendant le règne d'un très mauvais roi, Manassé, parmi les pires, qui a rétabli les pratiques païennes et c'est lui qui a fait totale allégeance à l'Assyrie. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, les Assyriens en apogée occupent un territoire qui va du golfe Persique jusqu'à l'Égypte, englobant au passage toute la Mésopotamie et bien sûr toute la côte méditerranéenne. En fait, on comprend bien que cet immense territoire correspond à ce qu'on appelle le croissant fertile.
Ils sont pas bêtes quand même.
Eh ben, des riches terres cultivables, irriguées par le Tigre et l'Euphrate à l'est, par le delta du Nil à l'ouest et au centre par le Jourdain. La Syrie tire de là toute sa prospérité.
Oui, mais cette hégémonie est combattue d'un côté par Babylone et de l'autre par l'Égypte, hein, qui veulent affirmer leur indépendance d'abord, et elle aussi, hein, après, se développer économiquement et bien sûr s'approprier les terres fertiles. On voit qu'Israël, bon, c'est un petit peu entre le marteau et l'enclume,
hein, voilà. Oui, mais tout petit.
N'est qu'un minuscule territoire situé au beau milieu de ces terres convoitées, hein, par les trois puissances. Et pendant toute sa vie, Jérémie va essayer de transmettre à Israël et Juda ce que Dieu attend de leur part comme réaction aux invasions successives. En fait, comme tous les empires, la Syrie va s'effondrer d'un coup, hein, car sa période la plus faste succède à un inexorable déclin. Et c'est Babylone qui prend le dessus. Pendant ce temps-là, l'Égypte chasse les Assyriens et prend son indépendance tout en essayant de combattre l'avancée des Babyloniens. Et au passage, le pharaon investit le territoire de Juda et en fait son vassal. Et pour finir, Babylone envahit tout le monde et les Égyptiens rentrent chez eux. Et là, ils se tiennent tranquilles. Alors, au milieu de tout ça, ce chassé-croisé de combats entre la Syrie, Babylone, l'Égypte, bon, les rois de Juda sont soumis, hein, tantôt l'un, tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Ou au contraire se révoltent pour obtenir leur indépendance ou pour conquérir une part du gâteau. Alors la grande question est, qu'est-ce qui motive les rois de Juda dans leur choix, leur décision? C'est là que le rôle des prophètes a tant d'importance. Ils doivent normalement apporter le point de vue de Dieu dans tous ces affrontements et conseiller les rois pour qu'ils agissent selon la volonté de Dieu.
Oui, les prophètes, c'est vrai, on a le droit de parler au pluriel ici, parce qu'en même temps que Jérémie, il y a eu plusieurs autres prophètes qui ont prêché. Par exemple, le plus connu, Nahum, Habakkuk, je ne sais pas comment vous dites, et surtout Ézéchiel, qui sera déporté à Babylone avec le peuple de Jérusalem, les exhortant à la repentance et à la conversion et en apportant des messages d'espérance. Je ne sais pas si on a été suffisamment clair pour vous montrer ce micmac d'invasions successives, mais nous verrons la prochaine fois pourquoi justement Jérémie était si pessimiste et triste devant les erreurs des dirigeants. Et en tout cas, il avait raison d'être pessimiste, puisqu'on va droit à la catastrophe, destruction du pays et l'exil de tous les habitants. Nous voici arrivés à la fin de notre temps d'antenne. Nous continuerons donc la prochaine fois la présentation de Jérémie, cette fois sur un plan plus personnel et intime. Et nous vous disons au revoir, chers auditeurs, et à très bientôt.
À bientôt.